Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Donc, à l'avance, vous m'excuserez un petit peu si je dépasse un tout petit peu mon temps de parole. Mais après tout, je crois que je suis la seule représentante des acteurs de terrain ici. Donc, je vais prendre le temps nécessaire pour développer deux stratégies qui sont pour nous absolument centrales en promotion de la santé, qu'on m'a demandé de vous présenter ici, et qui ne sont pas forcément si bien connues que ça non plus. Donc, je vais vous en parler maintenant. Donc, il s'agit de l'empowerment et de la participation, de la théorie à la pratique, avec un plan en 6 parties. Donc, effectivement, en 20 minutes, ça va être un petit peu difficile. Je vais commencer par vous présenter les origines de ce concept. Ensuite, par vous donner quelques définitions. On peut difficilement y échapper pour se poser bien les choses. Évoquer ensuite les différents niveaux d'empowerment, les différents niveaux auxquels on peut et on doit agir en visant l'empowerment. Les principales stratégies visant l'empowerment, donc il y en a principalement deux, le renforcement des capacités à s'organiser collectivement et la participation. Et on m'a demandé de développer plus particulièrement cette partie sur la participation, ce que je vais faire. On m'a demandé également, mais y a-t-il véritablement des preuves de l'efficacité de ces stratégies d'empowerment? Et donc il en existe même beaucoup, et donc je vais vous en présenter quelques-unes au travers d'exemples, pour finir sur les recommandations de l'OMS en ce qui concerne le développement de ces stratégies d'empowerment, dont on verra qu'on a encore un grand chemin à parcourir avant de véritablement pouvoir les mettre en œuvre. Alors l'empowerment, toute petite introduction. S'agit-il véritablement d'un concept intraduisible, comme on nous le dit si souvent? Donc, on l'a régulièrement associé à des termes comme habilitation, capacitation, prise en charge, prise de contrôle, prise de conscience, responsabilisation. L'OMS aime bien le terme d'autonomisation. Moi, je suis pas fan de cette traduction-là. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'autonomie sans pouvoir. Donc, je n'aime pas beaucoup qu'on assimile un terme à l'autre. Ce qui est certain, c'est que il y a une notion centrale, évidemment, qui est celle de pouvoir. Et là, là encore, tout de suite en préambule, non pas le pouvoir qui serait donné à une personne ou à une communauté, mais la création des conditions pour que les personnes et les communautés le prennent. Un pouvoir acquis et non conféré. Donc Nina Wallerstein, qui a fait un très gros rapport pour l'OMS en 2006 sur ce sujet-là, nous dit que l'empowerment ne peut pas être conféré aux personnes, mais est issu d'un processus par lequel les personnes s'attribuent du pouvoir. Les avocats de ce changement, ou les agents extérieurs qui le favorisent, peuvent jouer le rôle de catalyseur des actions ou aider à créer des espaces pour que les personnes acquièrent les compétences nécessaires, mais la pérennisation du changement et l'empowerment ne peuvent se produire que lorsque les populations se donnent un nouvel élan, développent leurs compétences et plaident leur propre cause. Alors, première partie, les racines de l'empowerment. Eh bien, l'empowerment trouve son origine dans des constats autour des inégalités sociales et de l'exclusion sociale d'une part, et des inégalités de pouvoir et des inégalités d'accès aux ressources et aux services d'autre part. Les inégalités de santé, donc je vous propose une définition qui est celle de la Société internationale pour l'équité en santé, qui dit les différences systématiques auxquels il est possible de remédier concernant un ou plusieurs aspects de la santé dans des groupes de population définis socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement. Donc ce qui me paraît intéressant dans cette définition, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une question économique, mais que la question, par exemple, d'être une femme plutôt qu'un homme, d'être un jeune plutôt qu'une personne âgée, d'être une personne valide plutôt qu'une personne en situation de handicap, etc., tout ça constitue les inégalités sociales de santé. L'exclusion sociale, eh bien, c'est le fait de vivre dans des conditions de privation et de vulnérabilité, d'avoir un accès limité à l'éducation, à la santé et aux autres services publics, de manquer d'influence politique, de liberté civile et de droit, de connaître un isolement géographique, une exposition à des environnements nocifs, de souffrir de racisme ou de traumatisme historique, d'une absence de capital social, d'isolement social, d'être exposé aux guerres ou aux conflits, de vivre une situation d'aliénation ou d'impuissance. Alors, les inégalités de pouvoir dans lesquelles l'empowerment va trouver toute sa pertinence et sa place se situent en fait à trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'existence de barrières formelle ou informelle, c'est-à-dire dite ou non dite, explicite ou implicite, entre les individus ou les communautés d'une part et les institutions ou les gouvernements d'autre part. Le premier niveau des inégalités de pouvoir, c'est celui-là. Ces barrières empêchent les premiers de se sentir aptes ou légitimes à interpeller directement les seconds. Deuxième niveau, c'est le contrôle inégalitaire des ressources, qu'elles soient matérielles, humaines ou financières. Le pouvoir sur les individus ou les communautés s'exerce au travers d'un contrôle direct ou indirect de leur accès à l'éducation, à l'emploi et à de bonnes conditions de vie, ou au moyen de systèmes politico-économiques favorisant les intérêts de certaines catégories de personnes. Ça, c'est le deuxième niveau des inégalités de pouvoir. Et le troisième niveau, et non des moindres, c'est un niveau, le niveau du contrôle idéologique, qui est composé de valeurs, d'attitudes, de croyances, qui agit en profondeur pour exclure certains individus et certaines communautés des réseaux d'influence sociale, mais aussi de manière insidieuse, en plongeant les personnes dans une passivité qui les conduit à restreindre d'elles-mêmes leur capacité d'agir. Ce contrôle idéologique s'inscrit dans un maillage de discours, de pratiques existant dans les institutions, les communautés et jusqu'au cœur des familles, donc de la vie privée des gens, et se concrétise par des actions impactant très fortement les relations sociales. Donc l'empowerment s'inscrit bien dans ces différents niveaux d'inégalité de pouvoir. Conséquence des inégalités de pouvoir et de l'exclusion sociale, un ressenti évidemment de manque de pouvoir ou d'impuissance, qui, combiné à des conditions de vie éprouvantes, est en lui-même générateur d'un état de stress spécifique ayant des répercussions négatives sur la santé. Donc c'est très clair, les cibles de l'empowerment, ce sont les populations précisément en déficit de pouvoir. Alors un certain nombre de champs disciplinaires, théoriques, se sont intéressés à ce concept et l'ont défini. Notamment, ce concept a été précisé dans le cadre de la pédagogie de l'opprimé, donc je vous renvoie à Paolo Frère, la psychologie communautaire, l'organisation communautaire, le développement rural et communautaire, le travail social. Et ce concept a été adopté complètement par la promotion de la santé, notamment parce qu'il favorise justement une approche positive et globale de la santé et qu'on a besoin de ce type d'outils pour pouvoir aborder la santé sous cet angle-là. Vous l'avez compris, il s'agit d'un concept essentiellement à valeur sociale, puisque l'empowerment représente la capacité pour les personnes de prendre en main leur destin et de faire avancer leur cause. De cette capacité naît un sentiment positif de contrôle sur sa vie qui éloigne le vécu d'impuissance. Et c'est un sentiment qui dépasse la satisfaction personnelle, car il débouche sur la notion de responsabilité et de justice sociale. Deuxième partie, donc quelques définitions. Donc, je vous ai posé là celles qui me paraissent les plus intéressantes. Donc, à nouveau, Wallerstein, un processus d'action sociale par lequel les personnes, les communautés et les organisations acquièrent la maîtrise de leur vie en changeant leur environnement social et politique pour accroître l'équité et améliorer la qualité de la vie. C'est aussi l'accroissement de la capacité des individus ou des groupes à faire des choix et à transformer ces choix en actions, ça me paraît aussi très important, ayant un impact sur la santé. Et enfin, le renforcement des ressources individuelles et collectives pour améliorer l'efficacité et l'équité du contexte organisationnel et institutionnel qui pèse sur l'utilisation de ces ressources. L'empowerment est la capacité des individus à acquérir du pouvoir socialement, politiquement, économiquement et psychologiquement à travers l'accès à l'information, à la connaissance et aux compétences, la prise de décision, l'efficacité personnelle, la participation communautaire et le contrôle perçu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'empowerment est à la fois un processus et un résultat. Par exemple, l'empowerment des personnes marginalisées peut être un objectif en soi, mais c'est aussi partie d'un processus qui conduit à la réduction des inégalités de santé et de l'exclusion sociale. L'empowerment, c'est le développement des ressources et compétences des pauvres pour leur donner les moyens d'intervenir dans les institutions qui gouvernent leur vie, de négocier avec ces institutions, de les influencer, de les contrôler et de les responsabiliser. Donc le développement des ressources et compétences, ça peut être un objectif en soi. En l'occurrence, on utilise ces compétences comme moyen pour intervenir dans les institutions et dans la vie publique. Merci. L'empowerment se construit à plusieurs niveaux On parle aussi bien d'empowerment psychologique ou individuel que d'empowerment communautaire ou d'empowerment organisationnel, un peu de façon comme les poupées gigognes, hein, on parle de la personne pour aller vers les organisations. Pour ce qui concerne l'empowerment psychologique ou individuel, bien on constate que les personnes qui prennent conscience des rapports entre ce qu'elles vivent et leur environnement et les forces sociales en jeu vont chercher à accroître leur capacité à exercer un contrôle sur leur existence. L'empowerment communautaire, c'est davantage la capacité des individus qui s'entraident à changer leurs conditions de vie. Et l'empowerment organisationnel, c'est bien la capacité de l'organisation à rassembler les efforts de chacun pour promouvoir le changement. Il s'agit bien d'une stratégie globale qui va devoir toucher ces trois niveaux. Alors, quelles sont les composantes, pour aller un petit peu plus dans le détail, hein, de ces différents niveaux d'empowerment? L'empowerment individuel, c'est le développement de la compétence, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la conscience critique, de la capacité à prendre des initiatives, de la motivation à l'action sociale. C'est un processus proactif centré sur les forces, les droits et les habiletés des individus, plutôt que sur leurs déficits ou leurs besoins. L'empowerment communautaire, à mon avis, nécessite qu'on pose d'abord le terme « qu'est-ce que c'est qu'une communauté ?». En France, on est resté assez mal à l'aise avec ce concept-là. Quand on entend « communauté », on entend rapidement « communautarisme », etc. On n'aime pas beaucoup ce terme, on le connaît mal. Moi, j'aime bien la définition qu'en donne Jacques Bury, qui explique qu'au-delà des aspects géographiques, et c'est souvent comme ça qu'on la définit spontanément, une communauté se définit à partir de l'identification et de l'attachement des personnes à un réseau social. Ces personnes présentent un sens de la communauté dès lors qu'elles ont identifié l'existence de problèmes partagés et qu'elles ont développé la conscience de pouvoir les résoudre plus efficacement ensemble. Donc nous avons un problème, nous avons tous le même problème et nous serons plus efficaces si nous sommes unis pour essayer de le résoudre. C'est ça le sens de la communauté et c'est pas forcément des personnes dans un même lieu qui peuvent penser ces choses-là. Le concept de communauté inclut la notion de solidarité, d'attachement des membres les uns aux autres et de culture, normes et valeurs partagées. Alors l'empowerment communautaire, ben, c'est d'abord des attitudes et des valeurs qui fondent le sens de la communauté des individus. C'est aussi des capacités, les connaissances et les habiletés de la communauté ou de ses membres. C'est aussi une structure organisationnelle, le développement des organisations locales. Et c'est aussi un leadership, c'est-à-dire l'opportunité pour les individus et les organisations d'exercer leur initiative au plan communautaire. Il y a différentes étapes à l'empowerment communautaire. D'abord, évidemment, la découverte des membres du milieu entre eux, le dialogue et l'établissement d'un sentiment d'appartenance au groupe, la concertation, le diagnostic de la situation dans laquelle se trouve le groupe et la formulation commune des objectifs à atteindre. L'empowerment organisationnel, lui, est davantage fondé sur la formation et la valorisation des individus et des communautés qui constituent cette organisation. Et il est beaucoup question, en termes d'empowerment organisationnel, de transfert de pouvoir de l'équipe d'intervention, que nous sommes, hein, vers une population. Et puis de l'établissement de liens de collaboration au plan pratique, administratif et professionnel, et j'ajouterais même financier, puisque le summum en fait de l'empowerment organisationnel, c'est quand la population gère le budget de l'action. Ça, c'est le voilà, c'est le summum. Donc oui, voilà. Donc on est bien sur une démarche qui se situe entre individuel et collectif, mais pas de façon distincte dans le cadre d'interactions dynamiques entre l'accroissement des ressources et du contrôle interne, donc les transformations individuelles des personnes, et la capacité à surmonter les obstacles structurels externes qui s'opposent à l'accès de ces personnes aux ressources dans le cadre d'une stratégie dynamique. Il y a un fonctionnement complémentaire et simultané de ces différents niveaux qui est nécessaire. Ce que nous rappelle Wallerstein, c'est que le rôle de l'organisation des populations marginalisées dans le sens d'une amélioration de leur capacité à exercer des choix et à transformer leur vie est aussi important que le rôle de l'environnement, le contexte institutionnel, politique, économique et gouvernemental qui autorise les acteurs à mettre en œuvre des actions efficaces ou au contraire les en empêche. Donc ça ne sert à rien que les populations développent des compétences spécifiques si l'environnement reste complètement complètement fermée à la possibilité pour elle de faire des propositions, d'agir, d'avancer, etc. Donc c'est bien, les différents niveaux doivent fonctionner ensemble. Les stratégies d'empowerment, donc les objectifs visés, je pense que vous avez bien compris, faire disparaître les barrières entre les personnes, les communautés, les gouvernements, les institutions, transformer les relations de pouvoir entre ces deux groupes, de façon à donner aux individus le sentiment de pouvoir exercer un contrôle sur leur vie et leur santé, au lieu de se sentir sous l'influence de forces extérieures, hors de leur champ d'action. Vous allez voir que dans l'empowerment, il est beaucoup question de sortir de la fatalité un peu. C'est cette notion-là qui est au cœur. Première stratégie, le renforcement des capacités à s'organiser collectivement. Deuxième stratégie, la participation. Qu'est-ce que c'est que le renforcement des capacités à s'organiser collectivement? C'est d'abord la lutte contre l'injustice sociale qui passe par le dévoilement des mécanismes du contrôle, des barrières institutionnelles ou structurelles, des normes culturelles et du poids des facteurs sociaux. Et c'est aussi, bien sûr, donner aux gens des moyens pour remettre en cause l'oppression qu'ils ont internalisée et pour développer de nouvelles représentations de la réalité. Reste un tout petit peu là-dessus. Vous voyez que les termes qui sont utilisés sont très forts, hein, puisqu'on parle d'oppression internalisée, etc. Ce sont bien les termes qui existent dans la littérature sur l'empowerment. Ce sont vraiment des termes très forts qui, moi, m'ont évoqué... Alors là, j'aurais pu... Oui, tu peux changer. J'aurais pu dire, mais qui a dit ça? Non, ce n'est pas un professeur de marketing social. C'est bien Jean-Paul Sartre qui disait « La décision de l'action de changement procède du changement de point de vue, d'une ouverture conceptuelle et imaginaire sur un autre possible, et cette décision d'action de changement se déclenche le jour où l'on devient capable de concevoir un autre état de choses et de décider alors qu'une situation est insupportable. » Voilà. Alors, pour ce qui est de cette première stratégie, on distingue quatre niveaux possibles d'implication des professionnels et je ne reviendrai pas spécifiquement sur ces deux premiers qui sont, disons, bien connus et que nous pratiquons tous les uns et les autres à la place où nous sommes, donc la prestation de services les plus respectueux possibles des personnes, j'espère qu'on en est tous là, donner la parole, la prendre en compte, le développement de petits groupes, créer des liens, forger un sentiment d'appartenance, initier une solidarité, donc c'est nos interventions dans nos petits groupes en éducation pour la santé, en prévention. En revanche, les deux autres axes nous sont déjà un petit peu moins connus, l'organisation communautaire et l'action politique et la création d'alliances, donc avec l'organisation communautaire qui suppose de travailler à l'échelle d'un territoire. Et ça me paraît être une notion tout à fait centrale aussi dans cette notion d'empowerment. L'empowerment se travaille à l'échelle d'un territoire. Merci. Qu'est-ce que le territoire ? C'est le cadre familier d'existence de l'homme habitant. Donc c'est là où on vit, où on se déplace, où on exerce ses activités, etc. C'est une dimension qui est particulièrement propice à l'intégration et à la participation de tout un chacun, donc favorable à la mobilisation sociale, au développement. C'est une entité géographique et sociale qui donne du sens à l'action des hommes. Donc sa définition va beaucoup plus loin qu'un simple maillage administratif, comme on essaye un petit peu de nous faire croire aujourd'hui. Et il y a là pour nous un enjeu majeur pour les acteurs de la promotion de la santé, qui est de pouvoir articuler au mieux les niveaux d'organisation administrative, régions, départements, communes, etc., et les territoires de vie des populations. Donc l'empowerment, il se situe bien sur cette dimension de territoire. Et pour vous donner un exemple de ce qui peut être suggéré à l'échelle d'un territoire, donc je me suis permis de reprendre la fiche élaborée par la FNES dans le cadre de la préparation du PNNS3, donc autour de l'alimentation et de l'activité physique, qui proposait une approche territoriale justement autour de ces questions-là, avec différentes étapes. Donc on part d'un état des lieux de la situation, privilégiant des méthodes qualitatives, observation, entretien. Un état des lieux qui ne concerne pas que la population, mais aussi tous les intervenants sur le territoire, les institutions présentes, les commerçants, les élus, tous ceux qui contribuent à la vie de la population sur le territoire. Au travers de cet état des lieux, identifier les personnes clés du territoire qui seront directement parties prenantes de l'action et impliquées aux autres étapes. Ensuite, établir des priorités d'action, et là on n'invente rien, simplement sur tous les axes de la promotion de la santé, action en direction des acteurs politiques, des élus, des pouvoirs publics, etc., tout le lobbying et l'advocacy dont parle la promotion de la santé, l'action sur les environnements physiques, l'action sur les environnements sociaux, donc je ne vous les décline pas, il y a différentes choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Bien sûr, des actions d'éducation pour la santé visant l'empowerment des populations, par le développement des aptitudes à s'exprimer dans l'espace public, l'amélioration de l'image de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, le renforcement des liens sociaux et du sens de la communauté ou de la solidarité collective. On n'a pas besoin à ce niveau de leur rabâcher les 5 fruits et légumes par jour, puisque le marketing social s'en charge. Donc nous, on n'a plus besoin d'en parler. C'est bon, on leur parle d'autre chose. On leur parle de l'estime d'eux-mêmes, de la confiance en soi, du renforcement des liens sociaux, etc. Ensuite, donc, l'établissement de partenariats est important entre les structures de soins et les structures d'éducation pour la santé, à ne pas oublier. Fixer des objectifs partagés avec tous les acteurs cités précédemment, mettre en œuvre et évaluer des actions en cohérence avec ces objectifs. Sans aller dans les détails, on s'aperçoit quand même très rapidement que l'approche communautaire, l'approche d'empowerment communautaire nécessite du temps. Tout ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Des compétences, ce ne sont pas tous les professionnels qui sont aptes à réaliser ce type d'intervention territoriale visant l'empowerment des populations. Et des moyens, parce qu'évidemment, qui veut du personnel qualifié et des actions qui s'inscrivent dans la durée, demande des moyens. Le quatrième volet, donc, c'était bien l'action politique et la création d'alliances avec des enjeux très importants autour, évidemment, de la lutte pour les droits sociaux, etc., qui dépassent la communauté locale et supposent le regroupement de communautés d'intérêt. Alors, quels sont les rôles des professionnels que nous sommes, si nous voulons nous investir dans ce domaine-là? C'est fournir des informations sur le fonctionnement des institutions, les déterminants de la santé, etc. Mais c'est aussi se faire entendre sur la scène politique en tant que membre d'une organisation professionnelle qui estime de son devoir la dénonciation des méfaits de telle ou telle décision politique sur la santé des populations. Donc ce sont des compatriotes d'Eric qui ont appuyé tout ça. Alors, évidemment, cette démarche présente un certain nombre d'écueils que je vais vous présenter maintenant, bon, pour les professionnels, mais aussi pour les communautés elles-mêmes et pour l'État, éventuellement. On abordera toutes les questions. Donc, pour les professionnels, donc on voit bien que ce soit un concept qui soit très approprié par la promotion de la santé, c'est un concept qui a une connotation fortement sociale. Est-ce que tous les acteurs de la prévention et de la santé publique et de l'éducation pour la santé sont prêts à s'engager dans cette voie particulièrement fortement sociale, effectivement? Quel degré d'implication des professionnels, jusqu'où aller dans l'engagement social? Doit-on vraiment organiser les gens ou plutôt se contenter de les conscientiser? Quel est le risque de manipulation? Est-ce qu'on n'impose pas sa façon de voir, etc.? Toutes ces questions-là restent ouvertes aussi dans ce type de stratégie. Il existe des risques également bien listés dans la littérature sur l'empowerment quand l'État s'empare du concept. Hein. Il y a évidemment le risque que l'État impose ou veuille imposer la façon dont les communautés doivent s'organiser, que l'État, du coup, mette l'accent sur des projets sociaux locaux au détriment des grandes réformes socio-économiques susceptibles d'avoir réellement un impact, que l'État utilise ses projets sociaux comme des outils de contrôle social des populations dites à risque, et enfin que l'État remette aux communautés la charge des problèmes et prenne prétexte de l'empowerment pour supprimer des services publics. C'était le même débat, pour ceux qui connaissent le champ de la résilience, c'est exactement le même débat qu'on avait sur cette question-là. Pour les communautés elles-mêmes, tout ça ne va pas de soi. Hein, vous avez aimé le victim blaming, vous allez adorer le community blaming, la victimisation communautaire. Les communautés sont dépassées par les difficultés impuissantes et stigmatisées comme telles. Ça peut arriver. La difficulté à faire converger les intérêts internes, les plus actifs ne sont pas forcément les plus nécessiteux. Une volonté fluctuante au sein d'une communauté de s'attacher aux problèmes de santé quand d'autres problèmes paraissent prioritaires. Et ce que nous dit une excellente revue de la littérature de culture et santé, ASBL, donc en Belgique, Rien ne garantit qu'une personne, une organisation ou même une communauté empowered, en pleine possession de son pouvoir d'agir, agira effectivement d'une façon qui contribuera au développement de son milieu ou de ses membres. C'est un risque. Deuxième grande stratégie d'empowerment, c'est la participation, avec des définitions de la participation qui passent beaucoup par des classifications. Donc vous allez trouver dans la littérature des dizaines de descriptions des différents degrés de participation du public qui vont du niveau 0 ou 1 à des niveaux 5 ou 6. Avec, on voit bien le niveau le plus faible, hein, c'est toujours celui de la communication, faible degré de participation, faible degré d'influence, qui va jusqu'à un degré élevé de participation qui relève plutôt du partenariat, hein, entre le public et les acteurs, et entre les deux toutes sortes de différents degrés également. Donc je passe là-dessus. Bon, là aussi, la participation, c'est important de le rappeler, a des fondements éthiques et anthropologiques, parce que souvent on met en avant aujourd'hui, on fait participer parce que c'est efficace. Oui, bien sûr, on va le voir, c'est efficace, mais c'est aussi, la participation a aussi des fondements éthiques et anthropologiques. Et c'est Raymond Massé qui nous rappelle que l'une des valeurs fondamentales de la démocratie est que chaque personne doit avoir la possibilité de contribuer au discours public. Pour lui, les représentants de la population sont en quelque sorte des experts terrain. Ce sont eux qui savent mieux que les autres ce qui se passe dans leur quartier, leur communauté, etc. Il les conçoit comme plus libres dans leurs opinions que le professionnel qui appartient à une institution. Et l'autre intérêt éthique et anthropologique qu'il voit à la participation, c'est l'éveil éventuel à de nouvelles motivations au sein des communautés. Avec là encore un risque qui est de passer du droit de participer des populations au devoir de participer. Et ce que nous dit Sylvie Crunel, c'est que peut-être l'important serait de toujours laisser une place pour l'absent ou pour celui qui désirerait prendre place à la table des débats. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, plus responsable et plus démocratique de considérer la participation dans ce domaine comme toujours possible, toujours ouverte, mais non obligatoire, à prendre à bras-le-corps par sa propre initiative? Et c'est Bertrand Sachs qui nous disait en 2006 « La participation est imposée aux populations démunies en échange de droits auxquels les munis ont accès sans effort. Les assistés ne seraient-ils pas ceux que l'on croit ?» Donc c'est le risque autour de cette question de la participation. Avec des paradoxes sur lesquels je vais passer rapidement. Hein, évidemment, dans une population, il y a une multiplicité de points de vue qui vont s'exprimer. Par contre, nous, en tant que professionnels, souvent, on est amené à prendre une décision. Donc, comment on gère cette difficulté-là? Nous nous inscrivons dans des cadres qui sont les plans régionaux de santé publique, les plans nationaux, les programmes, etc. La population va choisir des orientations. Comment assurer l'articulation entre ces deux niveaux? La dimension conviviale de la participation, qu'on souhaite bien sûr, mais une rigueur méthodologique qui doit exister aussi. Et la participation, bien sûr, comme facteur de succès de l'intervention, mais aussi comme facteur de contrôle social potentiel. En même temps, la participation, elle n'est plus remise en cause aujourd'hui, puisqu'elle fait partie des critères de qualité des actions développées dans les outils type Préfi ou outils de catégorisation des résultats. La participation, clairement, contribue à des enjeux de pertinence, d'efficience, de légitimité, de crédibilité et d'efficacité des actions, mais aussi répond à des enjeux de réduction des inégalités sociales de santé. Alors, des données probantes autour de l'empowerment, il en existe de plus en plus. Wallerstein donc, a produit un rapport pour l'OMS dans lequel elle inclut plus de 250 références qui vont dans ce sens-là. Et donc, pas étonnant qu'elle conclue en disant avec une grande constance, la littérature montre que ces stratégies produisent des résultats, donc aux différents niveaux et dans toutes les populations. L'empowerment est effectivement une stratégie de santé publique pertinente. Ce qui me paraît intéressant de pointer là, c'est que ce qu'elle a constaté aussi dans sa méta-analyse, c'est que une population qui a développé de l'empowerment, en fait, présente des, finalement, acquiert des capacités qui lui permettent de s'investir dans d'autres domaines que ceux pour lesquels elle a été, pour lesquels elle a développé de l'empowerment. Donc il y a une quantité énorme d'actions évaluées positivement dans ce sens-là, donc dans différents pays, qui montrent que des actions d'empowerment communautaire centrées sur des problématiques sanitaro-sanitaires ont en fait eu des impacts beaucoup plus larges sur les modes de vie, sur la façon de concevoir la santé dans ces populations. Il y a aussi la revue Health Education and Behavior qui de 2004 qui a consacré tout un dossier à l'impact de l'empowerment des jeunes sur leurs attitudes et comportements vis-à-vis du tabac. Donc je vous renvoie à ce numéro si c'est quelque chose qui vous intéresse. Quelque chose qui est très important aussi, c'est, alors là, ça se vérifie principalement dans les pays où les inégalités hommes-femmes sont évidemment particulièrement dramatiques, mais si vous donnez du pouvoir aux femmes dans ces pays-là, vous allez observer une amélioration globale de la santé des enfants, une amélioration du contrôle des naissances, un accroissement des demandes de prise en charge sur le plan de la santé, l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Et puis, vous allez constater également une amélioration globale de la qualité de vie qui va profiter à tout le monde, en fait. Hein, vous donnez du pouvoir aux femmes et toute la qualité de vie de la communauté s'en ressent mieux. Donc, il y a une meilleure capacité à s'organiser et à défendre leur cause, une amélioration des services, la transformation de certaines conditions, l'augmentation de la proportion de filles scolarisées, l'accroissement de la production agricole et l'accroissement de l'épargne des familles. Je vous laisse deviner pourquoi. De nombreuses études aussi qui montrent l'impact des stratégies d'empowerment dans le domaine de l'accompagnement des patients. Donc là aussi, la littérature est extrêmement abondante là-dessus et sans équivoque, hein, avec des impacts positifs directs sur l'amélioration de l'efficacité des prises de décision, de la gestion des complications, de l'adoption de comportements favorables, mais aussi un impact indirect avec de la prise de pouvoir dans le cadre des soins, satisfaction accrue dans la relation soignant-soigné, meilleur accès aux soins, etc. Mais également au niveau des politiques et des pratiques, l'amélioration de l'accessibilité pour les patients des services de loisirs, la création d'espaces de répit pour les aidants, l'émergence de mouvements contre la stigmatisation des personnes atteintes et le développement de politiques de droits des usagers. Alors, un exemple que tu connais peut-être certainement, Patrick, donc des effets d'une stratégie d'empowerment dans un quartier très défavorisé, donc c'est le programme Forest Quartier Santé qui a été mené sur la commune de Forest, donc une commune avec des indicateurs très très inquiétants, que ce soit sur le plan de la précarité ou de la santé. Avec une décision d'agir ensemble sur les déterminants de la santé et un programme qui se met en place véritablement centré sur l'empowerment de la communauté, un diagnostic communautaire, une analyse des résultats, l'organisation d'un forum pour diffuser auprès des habitants et la définition de priorités d'action partagée entre les habitants et les professionnels, donc ils vont tourner autour du logement, de l'alimentation, la prévention des accidents, la vie affective et sexuelle, etc. Les objectifs étaient ceux-là, donc je passe. Donc ont été mis en place des réunions de groupes d'habitants, des ateliers de santé communautaire, je passe également, je ne les décris pas, des réseaux d'habitants relais, mis en place également d'une boutique sociale. Également, ce qui est intéressant, d'une arrière-boutique sociale destinée aux professionnels en tant que lieu de débat, hein, pour continuer à travailler ensemble et offrir le meilleur service au public. La mise en place d'un observatoire de la santé et du logement et d'une commission communale de santé. Donc là, le bilan, c'est une évaluation positive, que ce soit en termes d'outils, en termes de dynamique en faveur de la santé et en termes de résultats. Un certain nombre de résultats concrets ont été observés. Malheureusement, donc, des inégalités de santé qui persistent, notamment vis-à-vis des personnes en situation de grande précarité au sein du quartier. Et donc, un constat teinté de réalisme et d'espoir. Je termine sur les recommandations de l'OMS. Donc la nécessité absolue d'inscrire les démarches participatives dans des stratégies globales de promotion de la santé. tout projet, même centré sur une population ou communauté spécifique, devrait comporter une dimension sociale et politique. Deuxième recommandation, compte tenu de l'intérêt des stratégies d'empowerment pour la santé publique, il est urgent de développer la formation des professionnels de la santé et du développement, des prestataires de services de soins ou de prévention, des décideurs politiques et des leaders communautaires aux stratégies d'empowerment communautaire. Et troisième recommandation, la littérature scientifique internationale est abondante. Néanmoins, il existe un déficit de recherche qui ne soit pas basé sur des protocoles quasi expérimentaux. Donc, les initiatives visant l'empowerment requièrent un ensemble de méthodes examinant les programmes au sein de leur contexte sociopolitique. Et ça, ça veut dire que il faut davantage de collaboration entre chercheurs et acteurs de terrain pour élaborer ces protocoles. Voilà, ça doit être inclus. Bon, je voulais conclure, je peux conclure rapidement sur une citation de Philippe Lecor qui nous dit « S'engager dans la promotion de la santé ». C'est croire qu'il y a des souffrances et des morts évitables et organiser son action dans deux directions. Une démarche politique visant à créer les conditions d'un vivre ensemble plus juste et une démarche d'accompagnement des sujets singuliers comme aide à l'élaboration d'un vivre au monde possible. Donc on est bien sur les deux niveaux de l'empowerment. L'État trahit sa mission s'il s'en prend uniquement au comportement individuel. Il est pleinement dans son rôle, en revanche, lorsqu'il construit les conditions du possible pour que la santé des sujets puisse se déployer. Se retrancher derrière la responsabilité du sujet revient de la part de l'État à abandonner sa propre responsabilité, qui est exclusivement et par essence de nature politique, donc on n'en sort pas. Voilà. Dernière image. Thank you.